magazine de l'environnement, un magazine consacré ce matin aux plantes sous un angle que nous n'avions pas encore abordé, celui parfum. Gabriel Bouillon, on est sur un des minuscules confettis qui restent de terres agricoles autour de Mont-Sartou, dans la région de Grasse.
Oui. Malheureusement, ce département qui était pratiquement qu'agricole a perdu toute cette tradition. Alors, c'était une agriculture de survivance. Hein. Vous n'allez pas imaginer qu'on avait, même si on cultivait beaucoup de plantes à parfum, des agriculteurs qui étaient riches. La plupart du temps, c'était des métayers. Et au fil de notre histoire, et notamment dans ces 50 dernières années, nos agriculteurs ont disparu très très rapidement au profit, ben, évidemment, de la promotion immobilière, puisqu'on a là une pression qui est très très forte. Et nous, ce qu'on a voulu recréer ici sur 2,5 hectares de jardin, c'est à la fois représenter via notre parcours olfactif cette tradition de jardin d'acclimatation qu'on connaît dans le département depuis 200 ans environ, et en même temps présenter le conservatoire des plantes à parfum qui ont été historiquement cultivées sur tout le territoire de Grasse et qu'on a souhaité réimplanter en plein champ, en parcelle, pour recréer un paysage agricole.
Alors, quand on regarde, on a l'impression d'être effectivement face à un champ tel qu'il y en avait autrefois.
Voilà. Au pied de cette magnifique colline typiquement grassoise, complantée de cyprès et d'oliviers, donc à la fois ces magnifiques feuillages d'oliviers. Aujourd'hui, on les voit sous un jour un peu pluvieux. Et dès que le soleil va ressortir, ils vont se mettre à briller et à être complètement argentés. Et puis avec cette verticalité du cyprès qui donne ce caractère tout à fait particulier à cette colline. Et vous verrez, quand on sera en haut du site, on a une ouverture sur le grand paysage qui est aussi très très belle.
Alors en fait, les plantes, vous les avez réparties, vous m'expliquez ça, en fonction des familles de parfums. Mais peut-être quelques mots d'abord sur l'histoire des plantes à parfum à Grasse.
Au départ, c'est une activité, la parfumerie à Grasse, qui est née sur l'activité de la tannerie. On était une ville de tanneurs, on faisait des gants, les gants sentaient pas très très bon et il a fallu les parfumer. Et c'est à ce moment-là que les parfumeurs se sont installés à Grasse et dans le courant du XVIIIe siècle, au tout début, les agriculteurs se sont mis à cultiver de la rose, du jasmin, du géranium, des mimosas. She doesn't wear any wings. She wears a heart that can melt my own. She wears a smile that can make me wanna sing.
Vous avez toute une collection de cartes postales, Gabriel Bouillon, et on voit très bien la façon dont les plantes à parfum étaient autrefois totalement présentes dans le paysage. Elles envahissaient absolument tous les creux de vallée, elles montaient sur les coteaux, elles étaient partout. On voit, c'est magnifique d'ailleurs, des foules de femmes. En général, c'est un travail de femmes qui sont soit à la cueillette, soit à l'enfleurage. Enfin, il y a toute une petite industrie autour de ces plantes à parfum. Et puis sur les dernières cartes postales, elles ont été remplacées par des lotissements, des routes. L'histoire des plantes à parfum dans la région de Grasse, et je dis volontairement la région puisque c'est pas uniquement la ville de Grasse, mais vraiment toute la région autour, c'est une histoire de déprise qui a commencé en fait curieusement à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire justement avec l'époque industrielle.
Oui. Alors on parle de paysage, on voit sur ces cartes postales qui en plus se sont faites à une époque où la mode était à la colorisation des photos noir et blanc, donc elles sont très très colorées. Quand on voit les plantes en fleurs ici, on imagine en effet ce paysage très 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 coloré. Mais ce qu'il faut s'imaginer derrière tout ça, c'est aussi le paysage olfactif dans lequel on vivait et on évoluait. Nous, on voit là sur 2,5 hectares de jardin dans lesquels on a plusieurs champs. Donc Le moment de la floraison, par exemple, de l'Elytrisum italicum, de cet immortel, on est dans 2,5 hectares de jardin qui sont baignés par cette odeur. Quand tout le territoire était recouvert de ces agricultures, que ce soit le jasmin ou la rose, suivant les saisons, on évoluait dans un paysage olfactif qui était un air parfumé à la rose ou au jasmin. Il y a quelques anciens agriculteurs qui me racontaient que dans leur pérégrination, on se déplaçait beaucoup à pied. Il y avait bien toute une activité de chartier, notamment pour transporter très rapidement ces fleurs à Grasse, mais à cette époque, tout le monde marchait beaucoup. Et ils savaient à peu près où ils arrivaient, ils sentaient déjà dans l'air parfumé qui arrivait à leurs narines ces champs de roses, de jasmin et le territoire sur lequel ils arrivaient et ce qu'on avait l'habitude de cultiver sur ce territoire. Donc en effet, oui, il y a cette qualité colorée du paysage, mais il y a aussi ce paysage olfactif. Vous disiez beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes aussi. Hein. On peut pas dire que les hommes n'étaient pas travailleurs. D'abord, il fallait défoncer un sol qui est très très ingrat. Hein. Si on prend le cas du jasmin, on est sur des tranchées à 80 cm de profondeur qu'on fait au maga, ou hein, c'est-à-dire c'est vraiment une bêche trident. Et puis ensuite, après, il y a toute cette greffe sur les jasmins qu'on faisait aussi à même la terre, assis sur des tout petits tabourets. Enfin, le travail pour les hommes ne manquait pas trop, mais c'est vrai que, mais d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui nous fait envie. Ces hommes, ces femmes qui travaillent ensemble, et ces enfants aussi beaucoup, puisque la cueillette du jasmin, qui est une plante qu'on ne faisait pas pousser très très haut, demandait d'être pliée en deux toute la journée. Et là, on faisait intervenir les enfants, hein, le matin avant d'aller à l'école ou pendant l'été sur ces cueillettes-là. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes parce que on faisait venir une main-d'œuvre de femmes italiennes qui venaient passer plusieurs mois en dortoir sur le territoire pour participer à toutes les cueillettes et aider les agriculteurs. Donc, sur toutes les cartes postales qu'on voit, et alors ici on en a beaucoup de cartes qui sont vraiment tournées sur le travail agricole. On est en plein champ, on est en train de cueillir, on est en train de planter, etc. Mais on peut trouver aussi d'autres cartes qu'on verra sûrement au fil de nos expositions à la Bastide du Parfumeur, où on voit les femmes assises en groupe sur la place du village en train de trier des fleurs ou en train de s'occuper des cocons de verre à soie, puisqu'on a fait beaucoup, comme partout en Provence, l'agriculture du verre à soie sur le territoire. À la Bastide, d'ailleurs, on a trois très, très beaux et très anciens mûriers qui nous laissent à penser que les agriculteurs ici ont eu un petit complément de revenus avec cette agriculture du verre à soie à un moment ou à un autre. Et on retrouve dans le centre de Montsartou une magnanerie qui est assez importante. Quelle ait été notre activité agricole, on retrouve des hommes, des femmes, des enfants, et souvent qui travaillent en groupe, qui ensuite vont manger sur des grandes tablées. On est des Méditerranéens, on s'est beaucoup policé et civilisé au contact de l'industrie du tourisme.
Vous trouvez ?
Mais on est très Méditerranéens.
Et alors, je le disais, ça s'est arrêté, enfin je le disais parce que vous me l'avez appris évidemment, hein, mais ça s'est arrêté fin 19e siècle grâce à une trouvaille industrielle.
Exactement. On avait pour habitude à Grasse d'utiliser une technique qui s'appelait l'enfleurage, où on utilisait énormément de main-d'œuvre. On avait déjà au départ une agriculture de la plante à parfum qui demande beaucoup de main-d'œuvre, cette technique de l'enfleurage qui demande également beaucoup de main-d'œuvre. Et au XIXe siècle, l'obsession des industriels grassois, c'était vraiment le cours de la main-d'œuvre. On retrouve des tableaux d'évolution du cours de la main-d'œuvre. Et on vous explique en 1890 que vraiment on est arrivé au point de non-retour. Alors, j'aimerais bien voir leur tête aujourd'hui, mais dès que Léon Chiris a inventé ce qu'il a appelé l'extraction par vapeur de pétrole, une technique qui était beaucoup moins gourmande en main-d'œuvre justement, et qui permettait ensuite de transporter des produits finis assez rapidement, tout de suite il est allé ouvrir une usine en Afrique du Nord, et il a initié les agriculteurs en Afrique du Nord à l'agriculture de cette plante à parfum. Et on a peut-être assisté là aux premières délocalisations, mondialisations, au sens où on l'entend aujourd'hui. Et donc maintenant, l'agriculture de la plante à parfum, vous allez la retrouver en Afrique du Nord, en Asie, en Indonésie. Il reste sur le territoire des Alpes-Maritimes 39 hectares de plantes à parfum cultivées. C'est vraiment un reliquat. C'est pour ça que le conservatoire était vraiment très important à mettre en place. Pour plusieurs raisons. D'abord, on est en train d'atteindre un point de non-retour, c'est-à-dire on est en train de perdre tous les techniques, les savoir-faire agricoles et toutes les souches botaniques. Alors que on se dit que avec les problèmes de transport, de coûts de transport qui vont se présenter à nous aujourd'hui, finalement, on va peut-être dans 10 ans, quand on aura perdu tout ce savoir empirique, envie de replanter, de recultiver de la plante à parfum à Grasse.
On pourrait d'ailleurs justement reprendre l'exemple de l'enfleurage. Je trouve ça tellement intéressant. Racontez ce que c'est que la technique de l'enfleurage et qu'on voit ce qui a été remplacé par du pétrole justement.
Alors la technique de l'enfleurage, c'était des cadres en bois, des châssis en bois. Sur lesquels on étalait une graisse animale, imaginez-vous une pâte graisseuse blanche, et on posait les fleurs les unes à côté des autres sur ces cadres en bois. La graisse s'imprégnait de l'odeur des fleurs, et ensuite, par ébullition, décantation, on obtenait une huile essentielle. Ensuite, quand on passe à l'extraction par vapeur de pétrole, on travaille avec des techniques très performantes d'alambic et on travaille des quantités qui sont beaucoup plus importantes, voire pratiquement des quantités qu'on peut manipuler, je vais vous le dire, à la fourche. Un petit peu comme l'extraction par vapeur d'eau qu'on pratique pour la rose centifolia, où dans des grandes cuves on peut mettre une quantité énorme de roses, et où là pour le coup, ben, la main d'œuvre est beaucoup moins importante.
Il y a moins besoin de main d'œuvre, il n'y a plus besoin du bois local, il n'y a plus besoin des animaux, il n'y a plus besoin des fleurs locales.
Exactement. Et tout disparaît. Pas de manière fulgurante, mais quand même assez rapidement, surtout quand on met tout ça en face du développement économique que la Côte d'Azur se met à connaître avec cette industrie, là pour le coup, du tourisme, et qui avec le temps gagne énormément, alors que ce soit en flux permanent de touristes ou en résidence secondaire, hein, les terrains agricoles sont pour beaucoup maintenant découpés en toutes petites parcelles qui deviennent plus ou moins grandes parcelles qui deviennent des résidences secondaires. Il faut bien vous rendre compte, c'est pas vouloir mettre en place un conservatoire de plantes à parfum à Grasse, c'est pas être nostalgique, surtout quand on propose des solutions pour l'avenir, et notamment comme ici quand on fait la promotion de la lutte biologique et qu'on essaye d'avoir plein d'idées pour le futur. C'est pas de la nostalgie, c'est par contre peut-être un réflexe de survie, on va dire, puisque on compte 1 million d'habitants dans les Alpes-Maritimes, et des habitants d'ailleurs qui sont eux-mêmes issus de flux migratoires qui sont très importants. On est encore dans des flux migratoires importants. Donc des gens à qui il faut réexpliquer un petit peu l'histoire au fil et à mesure des générations. Mais au milieu de ce 1 million d'habitants, on a 10 millions de visiteurs tous les ans. C'est-à-dire qu'on accueille en gros tous les mois le double de la population des habitants. Et ben dans ce cadre-là, c'est très très difficile de se reconnaître, de s'imaginer qu'on a une identité et de s'imaginer qu'on a une histoire. Et beaucoup de gens viennent sur la Côte d'Azur, repartent de la Côte d'Azur en disant ici les gens sont pas sympas, ici il n'y a pas d'histoire. On est comme toute la région de France, on a une histoire qui est très riche. On est en plus dans une région où la circulation des populations a toujours été importante, donc je peux vous assurer que l'histoire est vraiment riche de toutes les personnes qui ont traversé ce pays. Mais on a besoin de repères, et quand on s'imagine que les gens sont pas sympas, on est peut-être en train de côtoyer quelqu'un qui n'habite pas ici, puisque vous n'avez quand même, somme toute, 1 million d'habitants.
Ce conservatoire des plantes à parfum, vous l'avez voulu aussi conservatoire des savoir-faire.
C'est important. Les grandes inventions existent, mais ce qui fait quand même avancer le monde, ben c'est l'empirisme, c'est siècles et ces siècles de connaissances accumulées, transmises, encore beaucoup de manière orale hein, et assez peu écrites. Et ben quand on est jardinier, de toute façon, je pense qu'on s'intéresse à toutes les agricultures parce qu'il y a à apprendre dans tout ce qui a été fait. Et donc c'est important d'essayer de conserver à la fois ben, les techniques qui marchent et puis qu'on a gardées, et puis ben, celles qui n'ont pas marché, qui peuvent servir d'exemple pour ne pas recommettre les mêmes erreurs ou qui peuvent nous permettre de repartir sur d'autres pistes expérimentales. On a la chance à la Bastide du Parfumeur, on n'est pas dans une obligation de rendement. On ne vend pas notre production, on est là pour en faire la promotion et pour partager surtout avec nos visiteurs cette production. Les gens viennent, cueillent, ramènent des roses chez eux, du jasmin chez eux, et donc on peut se permettre toutes les expérimentations. Alors, c'est vrai que on est toujours là en phase de création, hein. On n'a ouvert que depuis un an, on réalimente le site en de nombreuses variétés, mais on veut cultiver du jasmin grandiflorum franc de pied, voir si avec l'évolution du climat actuel, il pourrait pas pousser et apporterait pas beaucoup d'avantages à l'agriculture de la plante à parfum. On peut revenir sur une greffe sur jasmin officinal. On l'a abandonné pour des problèmes d'attaque vermillaire, mais il faudrait voir si on en serait toujours aussi victime aujourd'hui. Mais on peut surtout laisser aller notre imagination à plein d'autres techniques culturelles, en se basant sur ce qu'on connaissait, en se basant sur ce qu'on a appris aussi à l'école, les uns et les autres, et dans nos expériences personnelles. On peut peut-être arriver à avoir de bonnes idées et à trouver des techniques culturelles qui pourraient être adoptées par les agriculteurs actuels de la plante à parfum, pourquoi pas.
Et quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'en aménageant ces lieux qui vous ont été donnés pour votre association, vous avez été obligé de vous livrer à un véritable décryptage du paysage, tant il avait été bouleversé, et en particulier le paysage de l'eau.
Le mandala, c'est le paysage, ça c'est sûr. J'ai l'air d'être un fin botaniste pour les communs des mortels qui viennent visiter la Bastide du Parfumeur, parce qu'on leur parle un peu en latin. Mais oui, mon grand plaisir, c'est la qualité du paysage, c'est la lecture du paysage. On peut comprendre énormément hein, avec les plantes, évidemment, comprendre ce qui se passe même sous le sol, dans le sol, rien qu'avec les plantes qui poussent sur un terrain. Avec François Navarro, notre paysagiste, on a vraiment essayé de comprendre l'histoire de ce lieu qui était mis à notre disposition. Et c'est vrai que, en tout cas en termes d'agriculture, quand vous suivez le passage de l'eau, vous avez beaucoup, beaucoup d'indications. Et donc on avait un canal, on a toujours d'ailleurs ce canal au milieu de la propriété, qui nous a dérouté un petit peu parce que on comprenait pas tellement si c'était un canal d'irrigation ou d'évacuation des eaux pluviales. En se cassant un peu la tête, en prenant le temps de l'observer, en le nettoyant pour bien repérer les arrivées d'eau, de drains, les sorties, etc., on a bien compris comment avait fonctionné le site. Et on a pu, après, alors en s'aidant de photos d'archives, de photos aériennes, des témoignages des derniers agriculteurs sur le terrain, on a pu avoir la démarche patrimoniale qu'on souhaitait pour remettre ce site dans son état d'origine, en recréant des restanques, des parcelles qui permettaient d'assoler les sols, de les assécher. On cultivait ici, en ce qui concerne la plante à parfum, de la rose, du jasmin, deux plantes qui détestent avoir les pieds dans l'eau. Et donc, toutes ces restanques, ces canaux, nous servaient à assoler complètement ces cultures, à les mettre en protection des eaux permanentes qui sont dans le sous-sol. Hein.
Elles avaient disparu.
Le dernier agriculteur qui avait souhaité faire du maraîchage, évidemment, avait mécanisé son exploitation dans les années 50. Et ben, pour pouvoir passer avec un tracteur, vous êtes obligé de raser tous les murs en pierre sèche qu'il y avait. Alors il nous a dit, puisqu'il est encore vivant, hein, il nous a dit, vous savez, vous allez en trouver de la pierre, ça va remonter, hein, ça a toujours remonté. Eh oui, ça remonte. Le mieux, ça aurait été de ne pas les enlever, mais ça s'est fait comme ça. On ne peut pas lui reprocher non plus. Hein. Mais il a fallu, comme le terrain avait glissé du haut de la propriété vers le bas en 50-60 ans d'érosion et de travail au tracteur.
Du fait qu'il avait retiré les murets.
Eh bien, bien sûr. Les murets, plus l'oubli de l'usage de ces canaux. C'est quelque chose que je pense qu'on fait partout en France, mais qu'on fait très bien dans les Alpes-Maritimes, qui sont un cas un peu particulier au niveau du relief d'une part et au niveau des précipitations d'autre part, puisque quand il pleut chez nous, il pleut vraiment, vraiment fort. On voit des grands vallons, on voit des canaux, on se dit tiens, mais il n'y a jamais d'eau là-dedans. Et non, il n'y a jamais d'eau. Ils sont simplement là pour les jours où il y a énormément d'eau. Et donc, on va à un canal de 10 mètres de large, on va le buser avec une buse de, ben, pour le coup, là, de 1 mètre de diamètre. Et puis, ben, quand il pleut énormément, les sols sont emportés, les maisons sont inondées. Comme on a beaucoup construit, on est en plus dans une logique de minéralisation des sols. L'eau on permet plus à l'eau de rentrer dans le sol. D'abord, on a étanché avec les toits. Ensuite, on a mis du goudron autour de la maison. C'est tellement plus propre que ben, l'eau ne rentre plus dans le sol, prend de la vitesse et arrive comme ça en amont. En amont, on se moque toujours de ce qui se passe. En aval, ça nous intéresse parce que c'est au-dessus de la maison, mais ce qui se passe en dessous, ça nous dérange en général beaucoup moins. Et on en arrive à des situations souvent ubuesques.
Alors vous le disiez, Gabriel Bouillon, c'est un jardin tout jeune. Il en est à sa première année. Comment est-ce que vous le voyez grandir? Qu'est-ce que vous imaginez pour la suite?
Alors, j'imagine un conservatoire des plantes à parfum totalement exhaustif. C'est pas grand-chose. Hein. On a cultivé sur le territoire de Grasse 25 à 30 plantes différentes. Et encore, je pense que là, dans ces 30 plantes, je compte les petites expériences qu'on a pu faire à une époque ou à une autre. Mais c'est important que ce conservatoire soit exhaustif, un parcours olfactif bien entretenu, léché, riche de ses collections.
Vous l'avez fait en fait avec le conseil d'un parfumeur et donc en respectant les familles de notes des parfumeurs.
Voilà. On a été conseillé par Michel Roudniska, qui est parfumeur à Grasse. Les parfumeurs classent les compositions en grandes familles olfactives qu'il appelle des notes, comme un musicien. Et il a des notes ambrées, hespéridées, florales, fruitées, enfin, tout ce petit vocabulaire du parfumeur, sur lequel on a souhaité s'appuyer pour créer des petits jardins. Alors, chaque jardin est une note olfactive utilisée en parfumerie, et on l'illustre par un certain nombre de plantes odorantes ou aromatiques principalement. Le parcours olfactif, pour nous, il nous permet de sortir de la contrainte de la plante à parfum pour partager notre plaisir de jardinier. Comme tous les jardiniers, on voudrait faire pousser des plantes qui ne pousseraient pas chez nous, etc. Et on fait découvrir tout ça aux visiteurs avec nos techniques d'agriculture biologique. Et oui, quand on croise un insecte, on présente l'insecte, etc. C'est riche de partage. Hein. On apprend des choses aux visiteurs. On en apprend beaucoup des visiteurs aussi. Et on a d'autres projets. On aimerait bien créer un jardin mellifère avec l'association Apiculteurs en Provence sur le haut de la propriété avec un beau fruitier cet homme. Et puis on a encore la mairie a encore des surfaces agricoles mitoyennes avec notre exploitation et sur lesquelles on pourrait avoir d'autres idées à développer.
Une petite distillerie parfum?
Non, on reste toujours dans cette logique jardin agriculture. Pour vous parler vraiment. Il ne faut pas que le visiteur soit mépris. On va parler à la Bastide du Parfumeur de tout le volet jardin et agriculture de ces plantes à parfum. Et pour parler de la transformation et du parfum, il faut absolument aller à Grasse. Vous avez des parfumeries qui vous reçoivent volontiers. Vous avez surtout le Musée international de la parfumerie qui va réouvrir ses portes à l'automne prochain. Et, et d'ailleurs, on va se mettre en résonance avec le Musée international de la parfumerie pour que vraiment le visiteur qui vienne sur le territoire grassois ait une idée complète de toute cette activité, à la fois dans la production et dans la transformation. Ça nous tient à cœur.
Maurice Chaudière, on était allé vous voir la première fois pour vos talents d'apiculteur, apiculteur alternatif, et on vous retrouve là dans une rencontre autour des parfums qui soignent. Quel est le lien?
Le lien, c'est que l'abeille prospecte un territoire très vaste, un territoire, je dirais, qui s'exprime par des parfums, par des couleurs, par des saveurs. La fleur, elle assure tout ça. La fleur, c'est l'amour de la plante. Et donc, elle a toutes les parades amoureuses de séduction. Et les animaux, bon, ils font la roue, ils chantent, etc. Les fleurs ne chantent pas, mais elles ont le parfum, qui est un attrait extraordinaire. Et les abeilles subissent cette attraction très fortement. Mais le pouvoir de la ruche, c'est de thésauriser les substances, les énergies, je dirais. Hein. Le miel, c'est un stockage extrêmement savant de l'énergie solaire. C'est ça, la réalité. Nous, on ne sait pas très bien stocker l'énergie solaire, les abeilles, oui. Mais en plus, elles ne font pas que ça. Elles vont sur les bourgeons, qui, on vient de l'entendre, sont très odorants. Hein, on parle du sapin baumier au Canada, etc. Et justement, elles vont, elles aussi, sur le peuplier et ramasser ces gommes, ces résines qui entourent le bourgeon et qui sont très parfumées. Et tout ça, elles en font quelque chose d'extrêmement complexe, qui est la propolis. Cette propolis est très odorante. Elle est odorante et puissante au point que quand j'en mange, j'en suis envahi. Et quand les abeilles viennent pour piquer et qu'elles sentent à travers ma peau cette odeur, elles ne piquent pas. Très souvent en Algérie, on disait, mais toi, tu es marabout. Ben non, je ne suis pas marabout, c'est que je mange de la propolis, je mange de la gelée royale et je mange du miel. Et donc, j'arrive dans une parenté, dans une proximité, si vous voulez, ou une ressemblance. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, l'abeille, c'est un animal totémique. Je vis avec elle comme un chaman. Mais, je ne prétends pas être un chaman. Hein. Mais c'est cette fonction que je reconnais chez les chamans, c'est qu'ils très souvent arrivent à un certain savoir, un certain rayonnement à partir d'une bête. La bête, c'est le média, c'est l'intercesseur, etc. Pour moi, l'abeille, c'est ça, parce que j'aime la nature, comme vous savez, mais elle est à la fois le vecteur de toutes sortes d'énergies et elle me met en communication avec un territoire qui est vaste que je ne saurais prospecter moi-même. Moi, je ne peux pas courir sur 30 hectares autour de ma maison et elles le font. Et donc, quand je vais puiser dans la ruche ce qu'elles ont récolté, je suis au diapason de mon environnement. Et voilà, la sensation que j'ai ici, quand j'entends tout le monde parler de santé, moi, je parlerais plutôt d'équilibre. Mais l'équilibre qui m'intéresse, c'est celui qui se crée entre l'écotype et l'écosystème.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on voit bien que un être, un individu, qu'il soit animal ou végétal, s'adapte à un milieu où il en crève si ça ne lui convient pas, où il s'adapte, se transforme et finit par lui ressembler d'une certaine façon. Et c'est cet équilibre-là qui m'intéresse. Entre la plante qui a trouvé et qui survit, même des fois pendant des millénaires, en un site, elle sait se reproduire, elle n'épuise pas le sol, elle s'est intégrée, voilà. Et cette intégration, elle m'intéresse. Et moi, je pense que l'homme, très souvent, on a perturbé complètement son environnement et on le met dans des situations où il ne peut pas retrouver ses repères, si vous voulez.
Mais je voudrais vous ramener au parfum, Maurice Feudière, parce que, en fait, vous avez dit deux choses qui me paraissent tout à fait complémentaires. Vous avez dit l'abeille qui explore son territoire, 30 hectares, elle le fait par les parfums, c'est-à-dire elle est à la recherche d'une cartographie des parfums. Oui. Puis ensuite, vous avez dit, moi je mange la propolis, et donc elle me sente comme faisant partie d'elle. La parenté que vous avez exprimée, c'est une parenté par l'odeur. Elle vous sente et elle sente que vous êtes fait d'elle, ou fait comme elle, d'une certaine manière. Donc, quand vous dites que l'homme moderne a perdu ses repères, c'est vrai que quand on imagine un environnement urbain, les odeurs sont totalement autres. Sont totalement, je ne sais pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais elles créent une cartographie totalement différente pour l'homme des villes.
Ah oui, je suis bien convaincu, et même je trouve que très souvent la ville sent mauvais, mais il y a aussi des balcons fleuris, et il y a des parcs, et il y a des gens qui ont des abeilles dans Paris, et les abeilles arrivent à filtrer, et tout ça à passer au travers des pollutions, toutes choses, pour arriver à faire un miel qui est propre. Et qui ramasse du pollen, etc., et qui arrive là aussi à concentrer l'énergie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles ne communiquent entre elles que par des odeurs et des vibrations. C'est toujours pareil. Vous voyez, quand un essaim se déplace déjà, c'est un volume d'odeurs et de bruit. C'est comme une bulle qui se déplace. Et j'ai eu la chance, une fois dans ma vie, d'être au pied d'un abricotier, et un essaim voulait se poser sur cet abricotier, c'était pratiquement à hauteur de ma tête. Et j'ai été dans l'odeur, et ça a été un émerveillement extraordinaire. Car cette odeur de l'essaim, c'est pas l'odeur du venin, c'est pas l'odeur de la propolis, c'est une odeur particulière. Elles émettent je sais pas s'il y a aussi des hormones, je sais pas, elles émettent ce parfum et certaines abeilles décident de l'endroit où va se poser la grappe et elles humectent le rameau de ce parfum et toutes les abeilles vont tourner autour et se poser là. Et même le lendemain, si on a pris l'essaim, le bois est resté imprégné. Et moi, comme je sais que les abeilles en essaim ne piquent pas, je les prends à pleine main. Et si je me lave les mains au savon, après avoir eu les mains au milieu des abeilles, eh bien l'odeur est restée. C'est tellement prégnant que ça passe dans les pores. C'est extraordinaire. Ça a un pouvoir d'imprégnation extraordinaire. Donc on voit bien qu'on est tout à fait dans le monde des odeurs avec les abeilles.
Et est-ce qu'on est vraiment dans le monde de la thérapeutique? Vous avez dit, plutôt que de guérison, je préfère parler d'équilibre. Mais est-ce que vraiment ces odeurs, et donc ces plantes, guérissent?
Ah oui, écoutez, moi je pense qu'une des nourritures spécifiques de l'homme, c'est le produit de la ruche, je dirais pas le miel, c'est tout. Et je pense qu'à l'âge de la cueillette, les abeilles ont le même habitat que l'homme. Elles habitaient des grottes, ou des arbres, comme l'homme. Et donc, depuis que l'homme est homme, à mon avis, il vit avec les abeilles. Je n'ose pas dire qu'il parasite les abeilles, mais il vit avec. Et donc, il connaît tout l'intérêt de cette abeille qui prospecte autour de lui un territoire très vaste et elle ramène au centre. Alors l'homme a toujours, il a cette intelligence qui est peut-être diabolique, c'est-à-dire de s'approprier la puissance de certaines bêtes pour en vivre lui. C'est-à-dire que le pigeon, il fait comme l'abeille, il a un centre. Il a à peu près le même habitat que l'homme, il aime les rochers lui aussi, et il va très loin chercher la nourriture et il revient là. Et donc l'homme peut parasiter un très grand espace, peut prospecter un très grand espace grâce au pigeonnier ou grâce à la ruche. C'est pas étonnant que chez moi j'ai des deux tout le temps. Et même la bergerie c'est un peu ça, les moutons ils vont très loin, ils vont bouffer de l'herbe partout, et ils ramènent au centre la viande, la laine, le crottin et tout ça. Donc cette manière primitive de concevoir l'agriculture ou la prospection d'un territoire, elle est inscrite dans nos gènes, quoi. C'est le parfait parasitisme.
Maurice Choisir, je vous parle de thérapie, vous me parlez de territoire.
Ben oui, puisque je vous disais qu'il me semble que la santé, c'est le rapport harmonieux entre le territoire et le centre. Et donc il y a toujours ce rapport entre la périphérie et le centre. Or, qu'est-ce qui prospecte mieux? Qu'est-ce qui fait le mieux ce voyage ou cette dialectique entre le dedans et le dehors? Ben pour moi, c'est l'abeille. Elle ne peut vivre qu'à l'ombre et à une passion solaire. Et il faut qu'elle sorte pour vivre. Mais elle ne peut pas vivre dehors. Il faut qu'elle rentre pour vivre. Et c'est extraordinaire, ce passage du dedans au dehors. Or, je crois que nous sommes hantés, nous, humains, par cette liberté, cette libération, qui est celle de la naissance, parce qu'on était dans une urne, nous aussi, comme la ruche, et on en est sorti. Et il semblerait que c'est tellement important pour la vie de l'homme qu'il ait la nostalgie de cette libération, et qu'il ait toujours envie de renaître.
Allez, je vais encore essayer de vous ramener au centre.
Oui,
la propolis.
Je divague facilement, mais comme les abeilles, je butine, je vais à droite, à gauche, mais quand même, les abeilles sont très programmées. Quand elles butinent la propolis ou autre chose, elles ne vont pas chercher le pollen, elles se spécialisent. La propolis est essentiellement antimycotique, car les abeilles vivent à peu près entre 35 ou plus de degrés, dans une humidité, une hygrométrie intense. Elles vivent dans une sorte de vapeur d'eau constante. C'est le paradis des champignons. Et il y a des champignons qui s'attaquent aux couvains, qui coagulent les larves. On appelle ça la maladie du plâtre. Les couvains sont coagulés comme du fromage blanc. Et c'est l'ascophéra, je ne sais plus comment. Enfin voilà, c'est un champignon. Et pour lutter contre ça, c'est la propolis. Or la propolis, c'est tellement indispensable. La propolis, c'est comme la peau d'une colonie d'abeilles. C'est pas la caisse. On met les abeilles dans une caisse, mais la première des choses qu'elles font, c'est propolisser l'intérieur. Elles tapissent. C'est l'enveloppe. Si vous voulez, certaines guêpes ont une enveloppe qui est plus ou moins fibreuse, etc. L'abeille, son enveloppe, c'est la propolis. Et donc, c'est sa protection. Elle se referme, elle se resserre, elle en fait des murs pour se protéger contre les intrusions, mais elle tapisse les rayons. Et il y en a partout dans la ruche. Et on voit bien, une cire toute neuve et blonde. Et quand, au bout d'un certain temps, elle est brune, parce qu'il y a eu de la propolis partout. Donc, c'est le remède à tous les maux qui peuvent arriver dans une ruche, c'est la propolis. Et il se trouve qu'elle agit sur les humains. puisque en tant qu'antimycotique, elle va soigner les mycoses de la peau, mais même aussi les mycoses de l'intestin, parce qu'on la mange aussi, la propolis. Et elle est un antibiotique, mais elle est biotique. C'est ça qui est la grande différence avec le pénicillium. C'est qu'elle sélectionne. Elle peut éliminer des bactéries ou des tas de trucs, mais en même temps, elle ensemence, dirait-on. Enfin, ça, c'est mon point de vue, hein. Et voilà, je pense que donc on se soigne. Alors évidemment, on peut soigner la peau, on peut soigner, elle est anti-inflammatoire, elle est analgésique, elle est tout à la fois, tout ce dont on parle. Là, ce matin, moi je le retrouve dans la propolis.
C'est-à-dire que tout ce parfum des plantes, finalement, il est concentré, condensé, métabolisé, exprimé par les abeilles.
Oui, c'est ce qu'il y a d'intéressant avec l'abeille, c'est qu'elle fait une sorte de synthèse. Elle ramasse, elle rassemble, et elle rassemble harmonieusement. C'est pas une compilation absurde, c'est une sélection, c'est une élaboration extrêmement subtile. Et là-dedans, il n'y a pas que les résines ou les baumes qu'elle a ramassés sur le bourgeon. Il y a aussi de la cire d'abeille, et il y a aussi du pollen, et il y a des sécrétions salivaires. C'est un corps extrêmement complexe. Au début, les gens disaient, ouais, elles vont ramasser ça dehors avec des résines, tout ça. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est très élaboré. Et ça varie en plus avec la saison. C'est-à-dire que la propolis de printemps ne sera pas celle de l'été, parce que les plantes n'ont pas les mêmes sécrétions. On a au début les bourgeons, mais après il y a d'autres choses. Il y a des exudats de toutes sortes. C'est extrêmement complexe. Moi je sais que j'ai vu rentrer des boules de propolis rouge, et j'ai jamais su sur quel arbre, et je ne sais toujours pas. Personne n'a jamais répondu. Peut-être que quelqu'un me dira, ben oui, grâce à vous d'ailleurs, oui, ben la propolis rouge vient de telle plante. Alors, peut-être que ça vient du millepertuis, qui a une essence... une substance colorante rouge, j'en sais rien. Peut-être c'est pas fatalement un arbre, elles vont pas que sur les arbres, elles ramassent, voilà, elles prospectent. Ce qui m'émerveille chez l'abeille, c'est qu'elles sont dans une permanence de prospection de l'énergie, sous toutes ses formes. Solaire, elles prennent du nectar qui est un liquide assez peu sucré, mais elles le concentrent en se faisant du bouche à bouche, elles se déversent d'un jabot dans l'autre, etc. Et elles sont capables de thésauriser l'énergie. C'est-à-dire que c'est une banque, une ruche. C'est extraordinaire. C'est pas seulement une accumulation, c'est une élaboration de l'énergie.
Vous aimez employer le mot vibratoire.
Oui, puisqu'on m'a dit que même les parfums étaient des vibrations. Et donc, quand elle vole, elle communique à la fois par le parfum et par les vibrations. Vous savez qu'elles ont un organe au bout de l'abdomen. C'est la glande de, je crois, c'est nosonof ou quelque chose comme ça. C'est un organe émetteur. Elles émettent des parfums et en même temps, avec leurs ailes, elles émettent des sons. Et c'est l'association des deux. Et dès qu'une abeille, quand il y a un essaim, par exemple, quand des abeilles vont prospecter le futur endroit qui va devenir la ruche, quand une a trouvé ça et qu'elle va vite communiquer aux autres, et puis quand l'essaim vient... Les premières abeilles qui se posent là mettent la tête dans le sens du chemin et elles bruissent et elles donnent une direction par leur corps, mais en même temps par les vibrations et par l'odeur. Et tout le monde s'engouffre. Et la reine va suivre. Tous les gens ont une idée anthropomorphique et sociale de la colonie où il y a une reine qui règne. Ça n'a rien à voir. La reine ne règne pas. Elle pond et elle va où les abeilles lui disent d'aller d'ailleurs. C'est pas elle qui dirige les seins comme beaucoup de gens le croient. La reine suit. Et elle est attirée par ces parfums qui sont émis, etc. Et en même temps, elle émet les hormones qui entretiennent la cohérence de la grappe.
Et vous avez une relation particulière au parfum, Maurice Chaudière ?
Ah oui. Je crois qu'on est imprégné, par le lait maternel, les premières goulées vont déjà déterminer une appartenance à une espèce, et puis peut-être un goût du sucre, on ne sait pas. Mais en même temps, on a des odeurs. Les bébés, ils sont très sensibles aux odeurs. L'odeur de la mer. Donc on est imprégné à la fois de saveur et d'odeur, ce que la fleur fait parfaitement. Voilà. Donc moi, j'ai la nostalgie je suis imprégné par ma naissance, par mon appartenance. Je suis né en Algérie. Donc moi, j'ai besoin de l'odeur de la menthe, de la coriandre. Dans les marchés d'Alger, il y avait cette odeur mêlée de coriandre et de menthe. Et je m'en souviens, mais dans le jardin, chez nous, il y avait des citrons et il y avait et du jasmin, etc. Et je suis pétri de tout ça, comme vous, je suppose.
Philippe Obola, est-ce que vraiment on peut faire un lien entre parfum et thérapie ?
Oui, tout à fait, parce que le parfum agit sur des zones responsables de la mémoire, en particulier le rhinocéphale. Donc, respirer une odeur, c'est déclencher un souvenir. Donc, souvent, les gens qui ont une pathologie sont liés à un passé et on a du mal à les débloquer. Vous voyez, des gens qui sont restés figés, cristallisés, comme on dit, vis-à-vis d'une situation, l'olfaction peut les débloquer.
Quel type de pathologie ?
Bah, par exemple, une dépression nerveuse, un deuil non fait, une séparation amoureuse très délicate. Bref, plein de situations. On pourrait dire qu'il y a des pathologies du passé et les fleurs sont tout à fait, les plantes, les arômes, en mesure de pouvoir les libérer. La plante est libératrice.
Donc comment est-ce qu'on s'y prend à ce moment-là ? On cherche le parfum qui va pouvoir libérer ou bien est-ce qu'il y a des plantes qui ont un pouvoir particulier ?
Bah, généralement, on met la personne devant un spectre de plantes, donc d'odeurs, et par affinité, elle va choisir l'odeur qui lui convient. C'est presque de l'instinctothérapie. On retrouve la vieille méthode qui a fait ses preuves, qu'on pourrait qualifier de direction naturelle vers la chose qui peut guérir. Donc c'est basé sur la loi d'affinité, le même attire le même. Et donc on sait qu'il y a des odeurs qui exacerbent un souvenir douloureux, au contraire l'amènent à se libérer. Je crois qu'en matière de pathologie, il faut vivre la chose pour s'en libérer. Et donc le parfum permet de mettre la personne face à un souvenir enfoui, le vivre au moment où la plante le fait survivre, et à ce moment-là, la personne peut se libérer de la chose.
Mais pourquoi est-ce que le souvenir en question serait nécessairement associé à une plante ?
Non, mais la plante a cette capacité, si vous voulez, il n'y a pas un souvenir lié à une plante, c'est pas, comme disent les mathématiciens, une relation binivoque. Mais disons que souvent, la personne, vis-à-vis d'une odeur, d'une musique, ce qu'on pourrait appeler les sens, va revivre une situation heureuse ou douloureuse. Donc l'olfaction permet de mettre la personne en contact, c'est ça qui est important, en contact avec une émotion, la vivre pour s'en débarrasser.
Oui, mais ça pourrait être l'odeur du pain grillé ou l'odeur du métro.
Alors, regardez, Proust, c'est l'odeur de la Madeleine. L'odeur du pain grillé, la grand-mère souvent fait à nouveau présence en nous. Donc il ne faut pas voir une odeur forcément liée à des pathologies. Il y a des odeurs heureuses et des odeurs malheureuses. Mais si on parle de thérapie, les plantes peuvent être un moyen d'amener la personne à revivre par l'odeur une situation cristallisée.
Les Abel-Valentines, pour beaucoup, c'est le bord de mer. Il faut penser qu'on va jusqu'à 3000, toute la barre des 3000 mètres. Dans notre commune, il y a une grande différence de dénivellation. C'est simple, quand vous vous retrouvez à 2000 mètres dans notre commune, vous n'êtes plus dans les Alpes-Maritimes, vous pensez que vous êtes en Haute-Savoie. On a l'arnica, on a les mélèzes, les sapins, les épicéas, donc voilà. Et on a une grande variété de plantes.
Et la lavande, par exemple, vous la récoltez à différentes...
Alors la lavande que l'on récolte, c'est toute dans une chaîne de montagnes. C'est la première chaîne de montagnes qui est parallèle à la mer. On commence à 1200 mètres et on finit à 1800 mètres d'altitude. Il faut savoir que la lavande peut pousser jusqu'à 2000 mètres d'altitude.
Et ça fait des différences importantes au niveau du parfum, ça c'est évident, puisque vous invitez les visiteurs à sentir, et effectivement il y a des différences extrêmement fortes.
Oui. Il n'y a pas qu'une différence d'ailleurs olfactive, il y a une différence aussi sensorielle. Ça, si on s'amuse à suivre le chemin de l'odeur, une 1200 mètres par exemple, soit elle reste dans l'arrière-gorge ou elle descend, elle peut descendre dans le ventre. Et la 1800 mètres, elle va directement au cervelet. Hein, voilà, donc c'est assez facile. Et bien souvent, d'ailleurs, sur le stand, on fait la démonstration aux gens.
Et qu'est-ce qu'elle fait au cervelet ?
Bon, parce qu'il y a un côté, ça veut dire qu'il y a des molécules qui sont beaucoup plus fines, que le cerveau capte beaucoup plus facilement, tout simplement. Voilà. Alors après, il y a une chose que bien souvent on nous demande, mais alors laquelle c'est que vous me conseillez ? On dit choisissez en fonction de celle que vous aimez. C'est le plus simple.
Ah oui.
Voilà. Oui, parce que on s'est rendu compte dans le temps.
Parce que c'est juste du plaisir. Non, parce ou de la consommation
que, pour se soigner. Hein. Mais par exemple, quelqu'un qui aime la lavande pour la lavande va vers une 1200 mètres parce qu'elle a un parfum beaucoup plus soutenu, plus fleuri. Mais quelqu'un qui est tendu, qui a du mal à s'endormir, naturellement, il va vers une 1800 mètres parce qu'elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus pénétrante.
Florentin, on s'était rencontrés il n'y a pas si longtemps pour parler des plantes qui soignent, des plantes qui guérissent, ce qu'on appelle la phytothérapie. Vous voilà aujourd'hui dans un congrès d'aromaphytothérapie. Aromathérapie, phytothérapie, quelle est la différence s'il y en a une et est-ce que véritablement on peut isoler la composante parfum dans les plantes?
Alors, c'est deux choses qui s'adressent aux graines végétales. Phytothérapie, aromathérapie, ça se fait à partir des plantes. Mais les deux thérapeutiques sont très différentes. La plus grande différence, c'est que la phytothérapie, on utilise la plante entière, ou un extrait de plante, une infusion, une décoction, une macération, un extrait à queue, etc. Et là, c'est effectivement la thérapeutique avec les plantes. Mais dans l'aromathérapie, on ne va prendre qu'une petite partie de la plante, qui est son huile essentielle. Donc c'est un principe volatile, hein, les huiles essentielles s'évaporent facilement, et quand on les distille, on va récupérer une huile essentielle qui est extrêmement concentrée. Donc on sait que les rendements sont faibles, hein, de l'ordre de 1%. Donc on n'a plus affaire, je dirais, à un extrait de plante, mais on a affaire à un ensemble de principes actifs, voire très actifs. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes domaines.
Mais cet ensemble de principes très actifs, il est condensé d'une manière ou d'une autre dans le parfum.
Alors, le parfum, c'est la partie aromatique qui est agréable à respirer, etc. Donc, on a des propriétés olfactives. Donc, c'est toute l'industrie des parfums avec toutes ces fragrances, ces composés différents, etc. Mais ces composés qui font partie des huiles essentielles, cette chimie des huiles essentielles, a des vertus thérapeutiques. Alors, la première qui vient à l'esprit, c'est dans les infections pulmonaires. Pourquoi ? Parce que quand on va prendre une huile essentielle, que ce soit par voie orale, que ce soit en suppositoire, même parfois en massage, l'huile passe dans le corps, elle va ensuite circuler dans le sang, et quand elle arrive au niveau des poumons, comme elle est volatile, elle s'évapore. Et elle s'évapore exactement à l'endroit où elle doit agir. Quand on a des affections bronchiques, eh bien c'est sur l'interface air-poumon qu'a lieu l'infection, et c'est là que l'huile doit agir, et c'est là qu'elle agit puisqu'elle s'évapore.
Alors vous êtes pharmacien, en plus d'être ethnologue, vous êtes ethnopharmacologue, très exactement. Si on vous demandait de composer une petite trousse de des huiles essentielles qu'il faut avoir à la maison, vous parlez de sel pour les poumons.
Alors, la première, c'est effectivement les huiles essentielles pour les poumons, mais on a aussi des huiles essentielles qui peuvent être utiles dans les douleurs rhumatismales. On a par exemple l'huile d'hélichryse qui est intéressante. On a l'huile de camomille allemande, la matricaire, qui a des bonnes propriétés anti-inflammatoires. On a des huiles calmantes, comme l'huile de lavande. On a des huiles toniques, comme l'huile de romarin. Donc on a effectivement tout un ensemble d'huiles essentielles. Mais il faut être très prudent parce que la marge de sécurité ou la marge thérapeutique avec les huiles essentielles n'est pas la même qu'avec beaucoup de plantes. Ça peut devenir rapidement toxique. Alors ces huiles essentielles sont présentées dans des flacons de 10 ml, mais si vous prenez une cuillère à café d'huile essentielle, comme vous pourriez le faire d'un sirop de plantes, là ça peut être assez grave, des irritations très fortes de la bouche, de l'œsophage, ça peut être neurotoxique avec des convulsions, enfin je veux dire, l'huile essentielle c'est un principe actif très fort, ça s'administre par goutte et surtout pas par cuillère à café. Alors, ces huiles essentielles sont intéressantes parce qu'elles sont extrêmement complexes. Il y a peut-être 100, 200, 250 molécules qui sont assemblées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les plantes qui fabriquent ces huiles essentielles vont sécréter des molécules différentes selon l'endroit où elles se trouvent. Les plantes à huiles essentielles sont très dépendantes de l'écologie. Et en fonction de l'ensoleillement, de l'altitude, du biotope, on aura des huiles qui auront des composés différents les unes des autres. Ce qui veut dire que pour en faire des médicaments, il faut bien connaître la composition et l'endroit où c'est cultivé. Et pour les parfums, c'est la même chose. Les parfumeurs ont besoin d'avoir une constance dans la qualité de leur parfum, donc faire très attention à la culture de ces plantes.
Mais quand même, Jacques Florentin, c'est vrai que quand on quand on se promène entre les différents stands qui proposent des huiles essentielles au nom extraordinaire et aux propriétés mirifiques, on peut être assez sceptique quand même, parfois. Alors, est-ce que c'est simplement un manque de connaissances ou bien est-ce que véritablement il y a plus de promesses que de réalités tenues?
Il y a les deux à la fois. D'abord, les huiles essentielles ne sont pas réglementées comme les plantes médicinales. Dans les plantes, c'est assez clair. Il y a un certain nombre qui ont des indications thérapeutiques encadrées par le ministère, qui sont vendues en pharmacie, d'autres qui sont en vente libre. Mais pour les huiles essentielles, je crois que pour l'instant, il n'y en a qu'une vingtaine qui sont à la pharmacopée européenne et il n'y a pas de réglementation très claire. Donc tout le monde peut dispenser et faire commerce d'huiles essentielles. Et il y en a énormément parce qu'elles viennent du monde entier avec des traditions plus ou moins validées, peut-être pas validées. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de travaux, mais il n'y a pas de contrôle ni d'encadrement des indications thérapeutiques. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des indications dans tous les domaines sans qu'on soit vraiment sûr du bien fondé de ces indications.
Néanmoins, vous dites qu'il y a un pouvoir réel de ces huiles essentielles, puisque vous avez même insisté sur les risques toxiques qui y sont attachés. Il y a aussi des pouvoirs thérapeutiques réels.
Des pouvoirs thérapeutiques non seulement réels, mais très puissants. On a vu ce matin des présentations sur l'alpha-bisabolol extrait d'un peuplier canadien qui a des propriétés anticancéreuses in vitro, mais sur plusieurs lignées tumorales extrêmement intéressantes. Et c'est sûr que dans ce domaine-là, la recherche mériterait d'avancer plus vite, et puis surtout que la dispensation de ces plantes dans des indications médicinales, je ne parle pas au niveau des parfums, mais quand on revendique une indication médicinale, elle devrait être un petit peu plus encadrée.
Voilà, vous pourrez télécharger cette émission sur notre site franceculture.com, réécouter les émissions des semaines précédentes et consulter notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, c'est Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. La semaine prochaine, c'est Phytobar, jeudi 5 juin à 18h30, 47 boulevard Saint-Germain, pour une émission en public sur les questions d'énergie et d'urbanisme avec Gérard Magnin et Nicolas Garnier. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon. Mixage, Romain Lucquiens. Réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.
I could give you what you thought you needed. I'm about to keep underneath the seat. You'll be to me in time. I'll get you there. I'm folded up so we don't find our way back soon. Nobody knows where we are. We can park the van and walk to town. Cheapest bottle of wine that we could find. Talk about the road behind. How getting lost is not a waste of time. Le Bois de Meaux will take us home. In the morning we will sing as the fall asleep. It's all for the sake of the ride.